This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacia. France Inter, le 18-20.
Le 18-20, ce soir, on forme d'abord de mini-tour d'Europe du dialogue social. Après le désastreux épisode Air France, cette question, l'herbe est-elle plus verte chez nos voisins britanniques, allemands, italiens? Et que dit Bruxelles en la matière? Nous serons également à Tel Aviv au lendemain d'une manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes et rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. 18h55, l'édito d'Arnaud Leparmentier en forme d'éloge de la trahison politique. Mais tout de suite, la crise des réfugiés vue par le HCR.
Michaël Thébault, un jour dans le monde.
C'était il y a moins d'une heure à Strasbourg, les parlementaires européens qui débattent de la crise migratoire en présence de François Hollande et d'Angela Merkel, la chancelière allemande qui va ensuite aller défendre en direct à la télévision allemande ce soir sa politique d'ouverture aux réfugiés. Et le terme réfugié est évidemment essentiel. C'est ce qu'on va voir entre autres avec vous, Philippe Leclerc. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en direct sur France Inter. Vous êtes donc le représentant en France du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alors selon les propres chiffres du HCR, au 28 septembre dernier, 520 000 candidats à l'exil étaient arrivés en Europe depuis le début de l'année. Et d'après vos projections, ils seront 1 400 000 d'ici la fin 2016. Je dis évidemment volontairement candidat à l'exil, Philippe Leclerc, pour ne pas dire ni réfugié ni migrant, quel terme doit-on employer?
Alors c'est effectivement très important les termes qu'on emploie. Et réfugié, c'est une protection qui est accordée à des personnes qui fuient la guerre, qui fuient la persécution. Alors qu'est-ce que la persécution? C'est être poursuivi pour des raisons de race, de religion, d'appartenance à un groupe social ou l'expression d'opinion politique. Et à ce titre, on ne peut pas accepter ou refuser des réfugiés. C'est l'obligation en droit international, en droit européen, mais aussi en droit national, que d'accueillir et de protéger ces réfugiés. Mais il faut déterminer qui est réfugié et qui ne l'est pas. Et dans chacun des pays qui ont ratifié la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, qui existe depuis 1951, eh bien, il faut déterminer si oui ou non cette personne est menacée de persécution ou fuit la guerre.
Alors, on va voir précisément quels sont ces critères. Mais entre réfugiés et migrants, est-ce un simple débat sémantique ?
Non, ce n'est pas un simple débat sémantique. D'abord, c'est un ensemble de personnes qui arrivent, vous avez dit, plus de 520 000 personnes qui sont arrivées en mer Méditerranée, qui continuent d'y arriver, en majorité en Grèce et en Italie. Toutes les personnes qui arrivent sur ces bateaux ont utilisé des passeurs, ont eu des parcours difficiles et doivent être traitées avec dignité, doivent être sauvées en mer, bien entendu. Une fois que ces personnes sont accueillies sur les côtes méditerranéennes, et c'est ce qui est en train d'être mis en place, malheureusement trop tardivement, des centres d'accueil, mais également d'évaluation de leur vulnérabilité et du besoin de protection. Et ceux qui seront reconnus réfugiés auront le droit de rester au sein de l'Union européenne. Et ceux qui ne seront pas reconnus réfugiés devront retourner dans leur pays d'origine. Et c'est difficile à mettre en œuvre.
Alors précisément et très concrètement, quels sont ces critères qui ouvrent droit au statut de réfugié?
Alors, pour un certain nombre de pays, c'est relativement simple, puisque c'est la guerre, la situation de la Syrie, la situation de l'Irak aujourd'hui, où des violations massives des droits de l'homme et des combats ont lieu, poussent des populations à fuir la guerre, le conflit armé. Donc, dans ces circonstances, la protection doit être accordée. Sinon, on parle souvent de réfugiés politiques. Ça va au-delà du réfugié politique, puisque la Convention de Genève dit que toute persécution religieuse, politique, raciale, et s'il y a une menace forte vis-à-vis de ces personnes, on a droit au statut de réfugié, c'est-à-dire de pouvoir rester dans le pays dans lequel on demande protection et pouvoir avoir des droits dans ce pays, c'est-à-dire être logé, avoir accès à la santé, envoyer ses enfants à l'école et avoir accès au marché du travail.
Donc si je vous comprends bien, le statut de réfugié est beaucoup plus avantageux, beaucoup plus protecteur que celui de migrant.
Oui, car aujourd'hui, les seules personnes quasiment en France, par exemple, qui peuvent entrer légalement sur le territoire, ce sont soit les personnes qui sont des membres de la famille, enfants ou époux d'une personne qui régulièrement réside sur le territoire, ou des personnes qui vont demander l'asile. Et lorsqu'on demande l'asile, on doit passer à travers une procédure devant un organisme en France qui s'appelle l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, et on doit présenter son cas devant l'OFPRA, qui devra déterminer si oui ou non on est un réfugié. Et à l'issue de cette décision, on peut faire recours contre cette décision et à ce moment-là, il faut aller devant la Cour nationale du droit d'asile et qui décidera si oui, si l'OFPRA s'est trompé ou non et déterminera en dernier recours si la personne peut rester en France comme réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui est une autre catégorie qui a été développée notamment par les directives européennes.
Excusez-moi Philippe Leclerc, mais que l'on fuit un pays en guerre ou que l'on fuit une pauvreté absolue, le résultat est le même. C'est le déracinement, c'est le dénuement. Pourquoi cette distinction ?
Parce que c'est très grave et qu'elle résulte de la situation de la Deuxième Guerre mondiale et de persécutions qui se sont passées à ce moment-là, qui étaient extrêmement graves et qui ont forcé les États à organiser un régime de protection internationale pour ces personnes qui ne sont pas protégées par leur propre État. Et c'est souvent leur propre État qui les persécute. Et à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça s'est développé tout au long, malheureusement, du XXe siècle, car les guerres ne se sont pas arrêtées avec la Deuxième Guerre mondiale, que la décolonisation a apporté également un certain nombre de déplacements et de persécutions qui ont continué avec la question du Rwanda, le génocide au Rwanda, les conflits en Bosnie-Herzégovine, et aujourd'hui, en République centrafricaine, le nombre de conflits, malheureusement, continue de se développer. Et jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous n'avons autant de réfugiés. 21 millions de réfugiés à travers le monde, dont 86% ne sont bien sûr pas en Europe ni dans les pays industrialisés, mais dans les pays en voie de développement et dans les pays qui sont proches des zones de crise.
Si on s'arrête sur le cas européen, cette confusion qui existe entre réfugiés et migrants peut-elle avoir des conséquences sur les opinions des différents pays européens et du coup sur les conditions d'accueil, à votre avis ?
Oui, et aujourd'hui on est dans une grande confusion. Souvent les systèmes d'asile qui n'étaient pas performants, comme le système français où le nombre de places pour les demandeurs d'asile ne correspond pas aux besoins. Vous avez 60 000 demandes d'asile en France depuis environ 3 ans vous avez 24 000 jusqu'à récemment places en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ce qui veut dire que les personnes qui ne peuvent pas aller dans ces CADA, dans ces centres d'accueil pour demandeurs d'asile, eh bien ils vont dans les dispositifs d'urgence qui ne sont pas prévus pour accompagner les demandeurs d'asile. Ils se retrouvent pour certains sous les ponts de Paris, comme on a pu le voir encore récemment à Austerlitz. Heureusement, des dispositions étaient prises.
Encore aujourd'hui, en différents lieux de la capitale, oui. Et pas seulement à Paris.
Et ça entretient la confusion à la fois pour les citoyens, pour les maires, ou également le fait que 70% environ des personnes qui demandent de l'asile en France sont déboutés de leur demande, mais que le système, encore une fois, jusqu'à la réforme du droit d'asile qui a été votée au cours de l'été, avait une procédure beaucoup trop longue de 2 ans, 3 ans, 4 ans.
Et à l'issue longue d'une... et souvent incompréhensible pour des milliers de personnes qui ne parlent pas un mot de français.
Oui, heureusement.
Et qui ne sont pas forcément très bien accompagnés, puisque là, il y a aussi un problème de sous-effectif, pas tant. Ils font comment ?
Alors, ceux qui passent dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile, donc 25 000 d'entre eux, ils sont accompagnés, des interprètes les accompagnent, ils préparent leur entretien. Mais encore une fois, pour ceux qui ne sont en dehors de ces structures, c'est très difficile. Et l'épreuve de passer devant l'OFPRA n'est pas une épreuve facile. Moi, je vous mettrais au défi de vous rappeler il y a 5 ans exactement ce que vous avez fait à tel ou tel moment. C'est ça que vous devrez expliquer de manière convaincante à un officier de protection qui est en face de vous et qui va dire si oui ou non vous dites la vérité.
70% de déboutés, c'est absolument énorme. Ces gens sont censés quitter le sol français. On sait évidemment que ce n'est pas une réalité. Que font-ils ? Quels espoirs peuvent-ils encore avoir derrière ? Une fois qu'ils ont épuisé tous les recours, et en l'occurrence, on n'a que 2.
Alors, aujourd'hui, la situation est que la procédure est trop longue et il est très difficile d'envisager un éloignement de ces personnes après 5 ans de procédure. Les enfants sont à l'école, les personnes sont intégrés dans la société, malgré la précarité dans laquelle ils ont vécu, et il est difficile d'éloigner. Encore une fois, ce qui est important, c'est que le système d'asile fonctionne bien, et encore une fois, c'est un système exceptionnel pour protéger des personnes qui sont menacées. Et il est important que la décision arrive rapidement, avec toutes les garanties nécessaires. La réforme de l'asile prévoit désormais que la durée moyenne de la procédure soit au maximum 9 mois, ce qui permettrait, pour ceux qui seraient déboutés, d'envisager un retour volontaire si c'est possible et également forcé si c'est nécessaire.
Vous êtes le représentant en France du HCR. Depuis le début de cette crise, on voit une Europe bien seule, en première ligne. Que fait concrètement l'ONU et donc le HCR pour aider cette Europe ?
Alors, la première chose, c'est que ce que je voudrais rappeler, c'est que l'Europe est en première ligne, mais en réalité, c'est sur les images de télévision qu'elle est en première ligne. Les États qui sont en première ligne, ce sont les États qui reçoivent majoritairement les réfugiés. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps, que la situation, notamment dans la plus grande tragédie de ce siècle, la situation syrienne, avec 4 200 000 personnes qui sont réfugiées dans les pays voisins de la Syrie, un tiers de la population du Liban est réfugiée. Ça voudrait dire qu'en France, 22 millions de personnes en 4 ans seraient arrivées. Et à ce moment-là, on pourrait parler d'un afflux majeur en Europe. Nous n'y sommes pas. Nous sommes devant un afflux qui est important et qui a augmenté considérablement maintenant depuis 3 mois, notamment avec l'arrivée de Syriens, d'Irakiens et d'Afghans sur les côtes grecques, jusqu'à 5 000 par jour. Et bien entendu, ce n'est pas la Grèce seule, avec toutes ses difficultés en tant qu'État, qui doit accueillir ces personnes. Ces personnes, elles cherchent à rejoindre les États de l'Union européenne qui sont capables de les protéger. Et aujourd'hui,
et d'abord l'Allemagne, si on le voit bien.
Et bien sûr, l'Allemagne, et l'Allemagne à la fois parce que elle a un discours politique qui est très clair et elle organise de manière digne les arrivées des demandeurs d'asile, avec la Suède, puisque ce sont les deux États qui accueillent déjà depuis 2 ans le plus grand nombre de demandeurs d'asile syriens, irakiens, et qu'aujourd'hui, ils sont rejoints à travers une décision de l'Union européenne par d'autres États, y compris la France, mais dans une beaucoup moindre mesure que l'accueil des Allemands.
Vous jugez cet accueil insuffisant ? Là, si je parle de la France spécifiquement.
La France a tardé, comme beaucoup d'autres États européens, à prendre la mesure, et je crois que même le président de la République l'a encore reconnu au Parlement.
On l'a redit il y a moins d'une heure au Parlement, à Strasbourg.
Oui, ouais. Et ça, c'est la principale responsabilité, je crois, des États européens, que d'avoir tardé à aider, encore une fois, les pays qui subissent un afflux massif de réfugiés. Le Conseil européen et l'ensemble des États ont décidé de donner 1 milliard d'euros au programme humanitaire qui, aujourd'hui, étaient sous-financés et qui sont l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de réfugiés syriens quittent le Liban, la Jordanie, la Turquie, parce qu'ils ne peuvent tout simplement plus y vivre. Et c'est une simple règle de bon sens que d'observer que des personnes qui ont encore quelques maigres ressources financières, si elles voient que leur avenir est complètement bouché et leurs enfants sont en péril au Liban, doivent les envoyer mendier, travailler plutôt que d'aller à l'école, eh bien, comme vous et moi, vous décideriez de passer de l'autre côté de la Méditerranée pour vous assurer que vos enfants puissent avoir une vie décente.
Vous le disiez il y a quelques instants, l'un des rôles du HCR, c'est notamment d'alerter les différents États. Visiblement, vous n'avez pas été entendu ou l'alerte n'a pas été suffisamment forte.
En effet, nous nous sommes époumonés à depuis des mois et des mois attirer l'attention sur la situation que vivaient ces pays, la nécessaire assistance de ces personnes. Et ce n'est malheureusement que la terrible image, notamment d'un jeune garçon échoué sur une plage turque, qui a finalement fait bouger, alors que beaucoup de récits disaient déjà la détresse de ces réfugiés. Mais c'est cette image qui finalement a fait bouger.
Et vous êtes le représentant du HCR en France. Est-ce que, question toute simple, vous avez rencontré François Hollande, vous avez pu en discuter avant cette terrible photo qui a déclenché toute cette mobilisation européenne ?
Oui. Nous avons rencontré François Hollande.
Quand vous lui dites l'urgence, que répond le chef de l'État ?
Écoutez, jusqu'à une période récente, la réponse de la France n'était pas suffisante. Il y avait le programme d'admission humanitaire des réfugiés, 500 par an. C'était clairement insuffisant face à la situation que vit encore une fois un pays ami de la France, le Liban. Lorsque la France disait qu'elle prenait sa part, j'avais des amis libanais, des amis syriens qui sont réfugiés. Comment la part de la France peut-elle être un certain nombre de visas d'asile donnés, 500 personnes par an? Jusque-là, la réponse de la France n'était pas suffisante, et elle n'était pas suffisante également sur le plan du financement des opérations humanitaires dans les pays voisins de la Syrie, mais également de l'Érythrée ou de l'Irak.
Que pensez-vous de cette réponse européenne, en tout cas la plus saillante, à ces quotas de répartition pays par pays?
C'est au moins un début de solidarité entre les 28 États, même si on sait qu'elle s'est faite dans la douleur, que 4 États s'y sont opposés.
Refusent catégoriquement. Oui.
Mais le vote est passé par là et la décision est mise en œuvre. Là, nous nous inquiétons d'ailleurs de la lente mise en œuvre de ce processus de relocalisation, car encore une fois, les personnes continuent d'arriver en Grèce et parfois jusqu'à 11 000 personnes sont dans des petites îles grecques à attendre d'être débarquées à Athènes. Et il faut que ces centres qu'on appelle hotspots, mais qui devraient être des centres d'accueil et d'évaluation des besoins, soient mis en place afin que cette relocalisation de 160 000 personnes commence. Sinon, elle va continuer à se faire dans le chaos, dans le désordre, comme on le voit sur toutes les routes de pays qui sont soit membres de l'Union européenne, soit qui sont entre deux États de l'Union, comme la Serbie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine.
Quand vous voyez par exemple la Hongrie qui dresse ses clôtures de barbelés, vous dites quoi ?
C'est un réflexe malheureusement premier de beaucoup d'États que de vouloir se protéger, penser vouloir se protéger d'afflux à travers des murs, à travers le renforcement de systèmes de répression qui empêchent les personnes de chercher protection et espérant égoïstement verser le flot vers d'autres États. Malheureusement, avec la Hongrie, c'est très clair, c'est caricatural presque cette volonté, mais c'est le réflexe qu'ont eu beaucoup d'États de l'Union. Le fait aussi de renforcer immédiatement les contrôles et de bloquer l'arrivée de personnes à Vintimille en provenance de l'Italie, c'est aussi un premier réflexe de égoïste et non pas d'une recherche commune de réponse à une situation qui va durer, car nous le savons que la situation va durer. La situation en Syrie n'est pas prête d'être résolue. Si les programmes d'assistance humanitaire dans les pays voisins de la Syrie ne sont pas immédiatement mis en place, le flux va effectivement continuer, et c'est ce qui explique l'estimation forte que nous avons de personnes qui vont continuer à franchir la Méditerranée dans des conditions périlleuses, malgré en plus les conditions météo qui vont, avec l'hiver, se détériorer.
Vous n'avez pas été entendu la première fois. Là, finalement, vous lancez une forme de deuxième alerte. Est-ce que vous espérez être entendu?
Nous avons déjà été entendus, car il faut aussi constater les décisions qui ont été prises. Le milliard d'euros de l'Union européenne, les pays industrialisés à travers le G7 et le G20 qui se sont mobilisés pour financer les opérations pour aider les réfugiés dans les pays voisins. La relocalisation qui va commencer, qui tarde, mais c'est une réponse nécessaire, encore insuffisante, mais la base est là pour travailler et secourir et assurer la protection de ces personnes.
Juste une dernière question, quelle serait la priorité des mois à venir? Là, je parle de réaction des différents gouvernements européens.
La première priorité aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre ce qui a été dit. Sinon, la défiance va se multiplier, d'abord entre les États, mais aussi au sein de l'opinion publique. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser ce chaos, cette souffrance que vivent les réfugiés, ce chaos qui continue. Vraiment, l'urgence, c'est de montrer que les États européens sont capables de faire face. Et nous pensons qu'ils sont tout à fait capables de faire face.
Écoutez, j'espère que vous serez mieux entendu cette fois-ci que la première. Philippe Leclerc, représentant en France du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Merci beaucoup d'avoir été en direct sur France Inter. À suivre, le dialogue social. Tiens, sauce allemande, britannique et italienne.
20 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Israelis running for shelter in Tel Aviv and Jerusalem.
Los que sí están llegando ya en masa al Río de Janeiro, al Maracaná.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Olivier Poujade.
Bonsoir Mickaël.
Alors on s'intéresse, hein, elle disait une fois encore, à cette image, Olivier, qui n'en finit pas d'être commentée en France et à l'étranger, celle du DRH d'Air France, chemise arrachée, poursuivie par des salariés en colère.
Oui, ces clichés, Mickaël, ont-ils figé la réalité du dialogue social en France, la violence comme seule issue, le conflit comme unique règle? Comment s'y prennent nos voisins pour que les échanges entre patrons et salariés puissent aboutir? C'est cette dernière question qui nous intéresse ce soir. Quid du dialogue au sein des entreprises allemandes, britanniques et italiennes? Pour tenter d'y voir plus clair, nous avons donc mobilisé nos correspondants dans ces pays. Premier exemple à Berlin où nous attend Nathalie Versieux. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Olivier.
Le cas de l'Allemagne, Nathalie, a souvent été mis en avant, hein, grâce notamment au fameux principe de co-gestion. Cela dit, certaines corporations s'organisent depuis quelque temps pour défendre plus durement leurs intérêts, c'est ça?
Oui, effectivement, la co-gestion semble mise à mal par l'émergence de plus petits syndicats très pointus ces derniers temps, comme celui des médecins d'hôpitaux, par exemple, des pilotes d'avion ou des conducteurs de train, qui sont à même de paralyser une partie du pays en ne mobilisant que quelques centaines de membres, donc a priori une efficacité maximale du point de vue des syndicats. Ce sont ces tout petits syndicats qui sont responsables depuis quelque temps de nombreuses grèves, comme celle lancinante à la Lufthansa ou bien chez Deutsche Bahn. Mais il n'est pas question pour le gouvernement allemand de tolérer la moindre entorse à la au bon fonctionnement de la co-gestion. Et au cours de l'été, le cabinet a donc adopté un texte qui limitera à l'avenir l'influence de ces petites confédérations, justement pour ne pas compromettre la co-gestion. Alors il faut bien voir que la co-gestion en Allemagne, ça veut dire très concrètement que les représentants des salariés et donc les principaux syndicats sont associés à toutes les décisions stratégiques de leur entreprise. Plus l'entreprise est grande, plus l'influence des comités d'entreprise est importante. Le cas extrême, c'est Volkswagen, où les syndicats jouent un rôle déterminant au sein du conseil de surveillance et choisissent la direction du groupe. Le principe de la co-gestion est difficile à accepter pour des actionnaires étrangers, notamment américains, d'où de nombreux conflits qu'on a pu observer au sein d'entreprises américaines comme Amazon ces derniers temps.
Merci Nathalie Versieux. Dialogue, on l'a bien compris, plutôt constructif, donc la plupart du temps en Allemagne. La Grande-Bretagne, elle, ne s'embarrasse pas de ce problème. Visiblement, Franck Madvon, le dialogue social, ça n'existe pas chez vous, en tout cas pas au niveau national.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas ici de grandes réunions type Grenelle avec syndicats, patronats et gouvernement. En général, les accords sociaux se négocient au niveau des entreprises. Très souvent, une organisation représente le personnel. Alors, plus de 6 millions de Britanniques tout de même sont syndiqués. C'est trois fois plus qu'en France. Mais les syndicats ont un pouvoir limité, surtout depuis les réformes des années Thatcher, des années 80. Ils jouent tout de même un rôle important dans certaines négociations. Mais les grèves sont rares désormais. Elles sont perçues comme vraiment l'ultime recours. Ça a été le cas cet été, par exemple, dans le métro de Londres. Il est de toute façon difficile de faire grève. Et une nouvelle loi va bientôt restreindre un peu plus le droit de grève. Ici, en résumé, la contestation sociale est moins vigoureuse qu'en France. La presse anglaise s'est d'ailleurs étonnée des violences à Air France. Un édito du très conservateur Daily Mail affirme aujourd'hui qu'en matière de dialogue social, pour beaucoup de Français, l'intimidation fait partie du jeu. Chez nous, les travailleurs sont, je cite, « plus dociles ».
Franck Madvon en direct de Londres. Le degré zéro du dialogue, l'Italie l'a également connu, l'un des souvenirs des années Berlusconi. Depuis, Mathilde Imberti, on se tourne vers vous. La situation a bien évolué, même si Matteo Renzi ne semble pas vraiment s'embarrasser, lui, de l'avis des syndicats.
Ah non, c'est le service minimum hein, pour Matteo Renzi. Il a des mots très durs envers les syndicats. Encore tout dernièrement, alors que l'accès au Colisée était bloqué à Rome par une réunion syndicale, eh bien le président du Conseil s'est mis en colère contre les syndicalistes qui prennent la culture en otage. Et il a immédiatement fait passer en urgence un décret-loi qui intègre les musées à la liste des services publics essentiels, donc service minimum dans les musées. Et dans les transports, il est fréquent que ceux qui entendaient faire grève soient réquisitionnés. Dernier exemple en date, une grève prévue le jour de la rentrée scolaire a été stoppée. Alors ça dit, on ne réquisitionne pas systématiquement, il y a des grèves encore régulièrement en Italie. Hein. La semaine dernière à Rome, il y a eu une grève, mais elle a démarré à 8h30 dans les transports en commun pour se terminer à 17h30. Autrement dit, les heures de pointe étaient assurées. Alors dans les entreprises, pas de grand mouvement récemment. Hein. Le dialogue social ici repose sur la décentralisation. Dans une entreprise, les négociations peuvent aboutir à des conditions de travail inférieure à celle des conventions collectives nationales. Et la particularité, c'est que chaque accord de branche ou d'entreprise est soumis au vote de tous les salariés, même si ce sont in fine eh bien, les organisations syndicales qui apposent leur signature en bas de la feuille. Donc la situation sociale actuellement en Italie n'est pas explosive. Hein, les syndicats sont divisés, clairement. Et à l'automne dernier, face à la réforme du marché du travail, ils ne sont pas tous descendus dans la rue. La réforme de Matteo Renzi est passée et les chiffres ne vont pas inciter le gouvernement Renzi à faire un effort, puisque la reprise semble être au rendez-vous et que le taux de chômage baisse en Italie.
À chaque pays, donc, ses problématiques et sa méthode pour éviter le blocage. Merci Mathilde Imberti en direct de Londres. Pour conclure...
De Rome, pardon,
merci Michael. Pour conclure ce tour d'Europe, Michael, direction Bruxelles, maintenant avec vous, Quentin Dickinson. L'harmonisation sociale, Quentin, fait-elle partie des préoccupations de la Commission ? C'est apparemment un vieux dossier, hein ?
Oui, une préoccupation presque aussi ancienne que la CEE elle-même, en effet, puisque les partenaires sociaux se sont organisés au niveau européen dès la fin des années 1950, avec d'une part la création de la Confédération européenne des syndicats, la CES, qui vient d'ailleurs de tenir son 13e congrès à Paris la semaine dernière, et d'autre part le pendant patronal des grandes entreprises, aujourd'hui curieusement rebaptisé Business Europe. Les organisations patronales du secteur public et des PME sont venues ensuite compléter le dispositif. Longtemps perçu comme une coquille vide, l'Europe sociale a véritablement démarré sous l'impulsion de Jacques Delors vers la fin des années 1980 et est consacrée par le traité de Maastricht et par les traités européens suivants. Peu à peu, se sont définies des normes sociales minimum d'application dans l'ensemble des pays de l'UE. Ainsi, aux trois premiers textes, il y a une quinzaine d'années, le congé parental, le travail à temps partiel et les CDD, se sont ajoutées depuis lors une soixantaine de directives qui visent par exemple le télétravail, le stress, le harcèlement et les violences sur les lieux du travail, l'égalité homme-femme ou encore la formation professionnelle tout au long de la vie. Tout cela ne remplacera jamais les négociations sectorielles ni le droit du travail qui reste national, mais cela permet une bien utile harmonisation des textes et des pratiques ainsi que la consolidation du principe de paritarisme à tous les niveaux.
Quentin Dickinson depuis Bruxelles et l'on remercie bien évidemment tous nos correspondants pour ce rapide et rythmé tour d'Europe du dialogue social.
Et direction maintenant Israël, Olivier, où Tel Aviv semble bien loin des tensions qui règnent ces derniers jours à Jérusalem.
Oui, Michael, une manifestation a mobilisé hier une grande partie de la population pour réclamer la fermeture d'un bar, le Allenby 40.
Et tout est parti d'une vidéo filmée au téléphone portable. Sur ce film, une jeune femme presque nue ayant des relations sexuelles avec plusieurs hommes en public.
Une vidéo qui a circulé pendant plusieurs semaines sur les réseaux sociaux avant que la police n'ouvre une enquête pour déterminer si la jeune femme, apparemment ivre, était ou non consentante. Bonsoir Marie Semelin.
Bonsoir Olivier.
Cette affaire Marie a totalement occulté, hein, vous le confirmez, les affrontements de Jérusalem. C'est clairement le sujet qui fait aujourd'hui le plus parler dans les rues de Tel Aviv.
Oui, cette affaire est très présente ces derniers jours dans les médias israéliens et il y a de grandes conversations entre amis, entre collègues pour savoir si lorsqu'on a bu, on est responsable de tout ou non. Et parfois, le dialogue est compliqué, comme juste avant que la manifestation commence. Un homme s'approche pour donner son avis et il s'oppose à Marcel, membre de Nahamat, le plus grand mouvement féministe en Israël.
Il dit que c'est la faute de la femme. Il fallait pas qu'elle se présente comme ça, c'est assez sa faute. Et il la considère comme un homme qui, s'il boit et il prend la voiture et il fait un accident, c'est pareil. Même si une femme, elle veut se déshabiller et faire ce qu'elle veut avec son corps, c'est pas la raison que les hommes la violent. On manifeste pour fermer le bar. pour que ça s'ouvre plus jamais, parce que c'est une violence. Il n'y a pas un autre mot.
Marie, on imagine mal, hein, tout de même, vu de l'étranger, vu de l'extérieur en tout cas, qu'une manifestation qui ne concerne pas le conflit israélo-palestinien puisse avoir lieu, surtout en ce moment.
En fait, les manifestants ne font pas du tout de hiérarchie entre les événements récents à Jérusalem et dans les territoires palestiniens et le fait de manifester quand ils pensent qu'une femme a été violée. C'est ce qui fait l'identité de Tel Aviv, de battre à son propre rythme comme un pays à part entière. Et en face du rassemblement, nous avons croisé Yoran. Il rentre des courses, il est en grande conversation sur le trottoir et il se fiche un peu de la manifestation, mais il est content qu'elle ait lieu.
In Jerusalem.
À Jérusalem, quelque chose comme ça, ça ne pourrait pas exister. Parce que même si une manifestation comme ça avait lieu, ce seraient des religieux qui manifesteraient contre des non-religieux. Mais ici, c'est une dispute entre nous sur quelles sont les limites, quelles sont les règles. Maintenant, vous pouvez voir la différence entre deux mondes. Un monde près de la mer qui se préoccupe de sexe, et dans un autre endroit, dans les montagnes, les gens s'entretuent à cause de Dieu. C'est ça l'histoire d'Israël. Je vais à Jérusalem une fois par an, ou une fois tous les deux ans. Mais je n'aime pas le message de Jérusalem, je ne l'aime pas.
Un message qui filtre de temps en temps jusqu'à Tel Aviv, en tout cas hier soir, c'était aussi la première fois depuis 3 semaines, depuis le début des violences à Jérusalem et en Cisjordanie, qu'une manifestation en rapport avec le conflit s'est déroulée à Tel Aviv, une manifestation en l'occurrence de soutien aux Palestiniens qui a eu lieu à Jaffa, le quartier arabe de la ville.
Depuis Tel Aviv, la correspondance de Marie Semelin.
Olivier Poujane, merci. 18h48 sur Inter, dans un instant cinéma avec Benicio Del Toro, mais d'abord Django Django, Cheyenne Tremble. Shake and Tremble, signé Django Django.
Moteur.
Un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
Oh, allons-y.
Sur France Inter.
Oh putain, moteur.
Et quand elle entend moteur, elle se rue dans notre studio. Bonsoir Eva Bétan.
Bonsoir.
Alors au menu, ce soir, 3 O, Sicario, Taureau et Coco. Voilà, extrait de la bande-annonce de Sicario, donc le nouveau film de Denis Villeneuve, qui nous plonge dans le monde de la lutte contre les narcotrafiquants à la frontière américano-mexicaine, Eva.
Oui, le thème de la frontière entre le Mexique et les États-Unis n'est pas vraiment un genre en soi, mais il a énervé et la littérature et le cinéma américain depuis La soif du mal d'Orson Welles, en passant par Babel d'Iñárritu ou bien Trafic, bien sûr, de Soderbergh, et il y en a d'autres. Alors, il y a ces dernières années, je dirais, deux grands sous-thèmes à l'intérieur. Soit on le prend sous l'angle de l'immigration clandestine, et à ce propos, il y a un film formidable fait par un Mexicain qui s'appelait Sin Nombre, si vous le retrouver quelque part, voyez-le. Et il y a le thème donc du trafic de drogue. Et c'est dans cette lignée-là que se situe Sicario. Denis Villeneuve, il faut rappeler qui il est, c'est un Canadien qui avait fait un film formidable qui s'appelait Incendie d'après la pièce de Wadi Mouachouad. Et Wadi Mouachouad. Et là, il fait son film dans le système américain. Donc, opération clandestine de la CIA pour contre des trafiquants au Mexique. Voilà comment il décrivait son film à Laurence Perron, interview réalisée au Festival de Cannes où le film était en compétition.
Sicario, pour moi, c'est un film hybride. À mon humble avis, un petit film de guerre. C'est-à-dire que c'est un film qui parle d'une opération de guerre en territoire mexicain, orchestrée par la CIA, une opération clandestine. Et c'est aussi un thriller, c'est aussi un drame moral. Sicario est un film qui explore, qui critique une certaine manière de faire de l'Amérique. Ils ont besoin de contrôler, cette volonté de contrôle, cette volonté au détriment des autres. Ça fait longtemps que ça existe. L'Amérique a des très grandes qualités, mais elle a aussi, comme tous les empires, elle a ses grands défauts aussi. Et je pense que c'est important d'explorer ses failles. Voilà. Mais moi, je ne crois pas que le monde est, le monde est noir et blanc. Je pense que le monde est profondément gris, profondément obscur, profondément opaque, et que le cinéma peut apporter un peu de clarté dans cette opacité-là.
Vous entendez,
un film d'action. Très violent quand même. Hein.
Il joue bien pas mal sur la violence entre ce qu'il montre et ce qu'il montre pas. Il montre beaucoup de cadavres, mais il va pas montrer la torture. Et cependant, en creux, et là où c'est moins novateur qu'était Trafic. Trafic restera un classique, même si vous le revoyez dans 20 ans. Mais là où il est intéressant, c'est justement dans la manière dont il choisit un archétype aujourd'hui qui est l'opération clandestine, le mal, la lutte contre le mal. Mais c'est dans la manière dont justement il fait un film très noir de ce côté-là. Et si vous voulez, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les films sont des marqueurs d'une époque. Dans la philosophie, toute proportion gardée, chaque film étant ce qu'il est, ça se rapproche plus des Zero Dark Thirty, c'est-à-dire comment, ou de la série 24 heures, comment il faut se salir les mains pour lutter contre le mal, que le mal soit le terrorisme ou le trafic de drogue. Donc c'est en cela qu'on est bien dans les années passées l'an 2000.
En deux mots, Eva, oui. Mais vraiment deux mots, Benicio del Toro, il est comment alors?
Là, il est sous-employé, je dirais. Il est employé dans « J'ai l'œil demi fermé, je suis tes œufs et je peux être un méchant ». Voilà, mais avec mystérieux. C'est un archétype qu'on a déjà vu. Il a fait mieux.
Bon, on y va quand même.
Ah mais on y va, il n'y a pas de problème. Vous me demandez combien est Benicio, je vous réponds.
Merci Eva Béton.
Il est mille fois mieux chez Desplechin. D'accord. Par exemple, voilà, là il le fait vraiment jouer.
Oh, mais message passé. Merci Eva Béton, 18h54. L'heure de l'édito d'Arnaud Le Parmentier du journal Le Monde. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Michael.
Et ce soir, vous jouez donc les despotes éclairés.
Oui, à l'heure où l'on fustige les promesses non tenues, notamment celle sur la baisse du chômage, essayons de faire l'éloge de la trahison éclairée. Alors la plus belle fut sans doute celle du général de Gaulle, clamant aux Algérois « Je vous ai compris ». Eux n'avaient pas tout compris, en tout cas pas encore que l'Algérie française de grand-papa s'était bientôt finie, mais à n'en pas douter, de Gaulle a trompé les Français pour le bien de la France. Alors nous avons trouvé en Europe deux nouveaux de Gaulle, deux vrais leaders, Angela Merkel et Alexis Tsipras, je sais retourner ma veste. L'idée ne vient pas de nous, mais de l'eurodéputé vert Yannick Jadot qui nous dit « Il existe deux grands leaders en Europe, donc Merkel et Tsipras, car tous deux savent construire une évolution de positionnement et emmener leur population avec eux. » Alors regardons d'abord le cas d'Angela Merkel. Elle a la réputation d'être constante, de ne récolter que les fruits des réformes de Schröder. En réalité, elle change d'avis en permanence. Les Allemands ne lui en veulent pas, au contraire, ils applaudissent. Quatre exemples fondamentaux. 1. Le nucléaire. Après l'accident de Fukushima, Merkel a décidé du jour au lendemain de sortir de l'atome alors qu'elle venait de faire voter une loi en faveur de sa relance. Changement, en réalité, qui correspondait à l'aspiration profonde des Allemands. Deuxième exemple, l'euro. Hors de question de voler au secours du Club Med, c'était une promesse de Maastricht. Merkel s'est assise dessus, le sauvetage de l'euro étant à ce prix, et l'Allemagne doit maintenir en haut l'euro en vie si elle veut préserver des relations pacifiques avec ses voisins. Troisième exemple, le SMIC. Pendant des années, la chancelière s'y est dite opposée. Elle a changé d'avis parce que les inégalités s'étaient trop accrues depuis Schröder et qu'il fallait mettre fin à cette dérive. Quatrième trahison, l'immigration. En 2010, Merkel avait imprudemment constaté, je cite, « l'échec total de la société multiculturelle ». Virage à 180 degrés cet été, elle accueille sinon toute la misère du monde, du moins tous les réfugiés syriens. L'affaire est délicate, la popularité de la chancelière est en chute libre, mais elle persévère. L'Allemagne n'a guère le choix, sa démographie exige un recours important à l'immigration.
Et vous mettez donc dans la même catégorie que Merkel le Premier ministre grec Alexis Tsipras.
Oui, une très belle trahison elle aussi. Le Premier ministre grec convoqua en juillet, on se rappelle, un référendum contre l'austérité pour mieux approuver dans la foulée un programme d'austérité encore plus rigoureux. Explication apportée par l'universitaire Gérard Grimbert, les Grecs n'ont pas voté sur le fond. Leur nom était une réaction d'amour propre blessé. Tsipras l'a senti, il a fait le nécessaire pour rester dans l'euro, s'est débarrassé de son nocif ministre des Finances Varoufakis et a légitimé son virage dans les urnes. C'était plus qu'indispensable pour la Grèce.
Donc, selon vous, par essence, le grand leader ne tient pas ses promesses.
Pas nécessairement, en tout cas, le leader précède ce que le peuple devine confusément sans l'avoir formulé. Il indique un cap plutôt que de faire des promesses. Au fond, les promesses, c'est l'aveu de faiblesse des hommes politiques. Ils dressent un catalogue d'engagements, 110 pour les uns, 60 pour les autres, pour pouvoir revenir devant les électeurs en disant « j'ai tenu parole ». Par exemple, dans les années 2000, Jacques Chirac tenait ses promesses de vœux du 31 décembre, mais n'avançait pas comme il fallait. En fait, ces promesses sont souvent des boulets dont il est impossible de se défaire. Et nous laisserons le mot de la fin à Gérard Grimbert. Il vaut mieux montrer le chemin que faire des promesses. Tsipras et Merkel le font.
Arnaud Le Parmentier, merci. Dans une vingtaine de minutes, le téléphone sonne ce soir sur le dialogue social à la française. Quelle conclusion tirer de la catastrophique image du comité d'entreprise d'Air France? Le dialogue social chez nous est-il une utopie, en tout cas en période de crise? Pourquoi en venir à de telles extrémités? Quels sont les freins, les blocages à un authentique dialogue en entreprise? Vos questions, vos réactions, dès maintenant au 01 45 24 7000, franceinter.fr et sur Twitter, hashtag Telson. Et avant cela, dans une poignée de secondes, le journal de 19h.